Sans lui, nous ne voulons pas être ici. Il a promis, là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est présent. Nous souhaitons accueillir très chaleureusement chacun d'entre vous, en particulier ceux qui sont peut-être ici pour la première fois aujourd'hui, au nom précieux du Seigneur. Ces rassemblements sont en effet interconfessionnels. Chacun peut venir écouter la parole du Seigneur. Nous ne connaissons qu'un seul lien, celui qui nous unit à Dieu et à sa parole. Une seule proclamation, un seul évangile, un seul message, et c'est encore la parole précieuse et sainte de Dieu. Et je crois que cela prend de plus en plus d'importance à nos yeux lorsque nous lisons dans le psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Nous vivons en effet une époque très sombre et nous avons besoin de la lumière divine, de réponses divines à ce qui se passe actuellement. J'ai lu aujourd'hui à l'aéroport dans un hebdomadaire une annonce qui m'a réjoui. On y lit en gros titre, on prédit des temps difficiles au diable. Et je me suis dit en moi-même, c'est vrai, son temps n'est plus trop long et il en profite bien sûr de toutes les manières possibles. Le temps qui nous est promis est un temps merveilleux. Ce sera peut-être une brève période de tribulation, mais après cela, une gloire éternelle nous attendra. Bon, nous ne pouvons tout de même pas ignorer les événements actuels comme s'ils ne nous concernaient pas. Dans l'ensemble, je me réjouis qu'Israël ne soit pas encore intervenu dans les conflits. Croyez-le ou non, ma première prière à Dieu a été qu'Israël fasse preuve de retenue afin que le monde ne se mette pas en colère contre ce peuple de Dieu. Et quand les Américains ont ajouté « Nous nous battons pour vous », cela m'a d'autant plus plu. Dieu pourvoit en effet à tout au moment opportun. Personne ne peut pour l'instant prédire comment les choses vont naturellement évoluer, ni quelle en sera l'issue finale. Nous pourrons ensuite vous citer les passages bibliques qui se sont accomplis. Oui, ce sera alors très simple. Dans tous les cas, comme je l'ai déjà dit, la dernière fois ici, ce n'est pas encore le dernier affrontement, mais un échange de coups. Et il se pourrait qu'Ésaïe 27, verset 12, s'accomplisse à présent. Je voudrais lire quelques passages de l'Ancien Testament concernant le peuple d'Israël et plus généralement l'évolution actuelle. Puis nous passerons à quelques passages du Nouveau Testament. Ésaïe 27, verset 12. Ésaïe 27, verset 12. Mais voici ce qui arrivera en ce jour-là. Le Seigneur organisera une moisson depuis les épis de l'Euphrate jusqu'au torrent d'Égypte. Nous devons voir comment les choses vont se passer. Je vous lis la parole de Dieu qui nous indique les véritables proportions. Et d'ailleurs, qui a jeté un œil à la carte ces derniers temps? Qui s'est un peu orienté, c'est un peu repéré. Mais certainement, la plupart d'entre vous, il est tout simplement très important de savoir que là où se trouvait le paradis, là où habitait Abraham, là où se trouvait Ninive, là où se trouvait Babylone, là où se trouvait, où se trouve la Mésopotamie, là où se trouvait le berceau de l'humanité, là où tout a commencé, c'est là que les choses s'organisent et suivent leur cours et qu'elles auront une tâche jusqu'à la fin. Je dois en effet vous lire quelques passages de la Bible à ce sujet. Ce n'est pas censé être un cours d'histoire, juste quelques brèves remarques. Je ne m'y attarderai pas longtemps. Dans la Genèse, chapitre 11, je lis le verset 31. Genèse, chapitre 11, verset 31. Alors, Théra prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, fils de Haran, et sa belle-fille Sarai, la femme de son fils Abraham, et il partit avec eux d'Ur en Chaldée pour se rendre au pays de Canaan. Si vous consultez une carte, vous constaterez qu'Ur en Chaldée n'était situé qu'à quelques kilomètres de Bassora. Ces derniers jours, j'ai consulté à plusieurs reprises toutes sortes de cartes afin d'avoir une vue d'ensemble. Et là où habitaient Abraham et Haran, vous pouvez vérifier tout cela en détail. Entre le Tigre et l'Euphrate se trouvaient plusieurs villes importantes. Je voudrais continuer la lecture de Genèse 12, verset 4. Genèse chapitre 12, verset 4. Maintenant, le verset 4, Genèse 12. Abraham partit donc, comme le Seigneur le lui avait ordonné, et Lot partit avec lui. Abraham avait 75 ans, dont 75 ans, lorsqu'il quitta Haran. Il était parti d'Ur en Chaldée, remontait l'Euphrate jusqu'à Haran. Je vais maintenant lire un passage de Genèse 15, Genèse 15, verset 17. Genèse 15, verset, oui, peut-être, ça suffira peut-être le verset 18, Genèse 15, verset 18. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham et déclara, je donnerai ce pays à ta postérité depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. Telle était la promesse que Dieu avait faite. Dans Josué 24, je ne lis également que certains versets de Josué 24, peut-être le verset 2 et le verset 14. Josué 24, verset 2, puis verset 14. Alors Josué dit à tout le peuple, ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Vos pères habitaient autrefois de l'autre côté de l'Euphrate, notamment Théra, le père d'Abraham, et de Nahor, et ils adoraient d'autres dieux. Verset 3. Alors j'ai fait sortir votre père Abraham du pays situé de l'autre côté de l'Euphrate, je l'ai fait errer dans tout le pays de Canaan. Et maintenant le verset 14. De Josué 24, verset 14. Craignez donc le Seigneur et servez-le avec sincérité et fidélité. Débarrassez-vous des dieux que vos pères ont adorés au-delà de l'Euphrate et en Égypte et servez-le Seigneur. une exhortation très claire. Extrait de 2 Samuel 8. 2 Samuel 8. Je voudrais également lire très brièvement le chapitre 8 de 2 Samuel. 2 Samuel 8. 2 Samuel chapitre 8, verset 3. David bâtit ensuite Hadad-Ézer, fils de Rehob, roi de Zoba, lorsque celui-ci était parti pour rétablir son règne sur l'Euphrate. Et puis encore, un roi cinq, juste pour avoir une vue d'ensemble, dont nous avons tous besoin ces jours-ci. Un roi, chapitre 5, vous allez tout de suite voir pourquoi je lis ces passages. Un roi, 5, verset 1. Est-ce que c'est bien ça? Je l'ai noté à la hâte, je l'avoue. Passons donc tout de suite à la parole du prophète Ézéchiel, Ézéchiel 37, pour commencer. Peut-être que ce n'était pas si important. L'important, c'est que nous prenions les passages qui parlent directement de ce qui se passe actuellement. Ici, dans Ézéchiel 36, je lis à partir du verset 24. Ézéchiel 36, verset 24. Je vous ferai sortir des nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Puis le verset 26. Et je vous donnerai un cœur nouveau et je vous mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre sein le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Verset 27. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous marchiez selon mes lois, que vous observiez mes commandements et que vous les mettiez en pratique. Puis, au chapitre 37, verset 21, dis-leur, ainsi parle le Seigneur Dieu, sachez bien que je vais faire sortir les enfants d'Israël des nations parmi lesquelles ils ont été dispersés, je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Puis, au chapitre 37, versets 26 et 27. Chapitre 37, verset 26. Je conclurai alors avec eux une alliance de paix. Une alliance éternelle sera établie avec eux. Je les établirai dans le pays. Je les multiplierai et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux éternellement. Ma demeure sera au-dessus d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Au verset 28, les nations reconnaîtront alors que je suis le Seigneur qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux éternellement. À ce sujet, je voudrais lire tout de suite un passage du prophète Zacharie au chapitre 6. Zacharie, chapitre 6. Ici, il est parlé de la dispersion du peuple d'Israël et là-bas, il était déjà question du rassemblement. Et vous verrez que les mêmes puissances qui s'opposaient à Israël s'opposent également à l'Église. Zacharie chapitre 6, verset 1. « Puis lorsque je levais de nouveau les yeux et que je regardais, je vis quatre chars sortir d'entre deux montagnes. Or, ces montagnes étaient de bronze, d'airain. Le premier char était attelé à des chevaux roux, le deuxième à des chevaux noirs, le troisième à des chevaux blancs et le quatrième à des chevaux tachetés. À quoi pensez-vous maintenant? Qui a lu les sept sceaux? À quoi pensez-vous maintenant? Aux quatre premiers cavaliers des quatre premiers sceaux, n'est-ce pas? Qui parmi vous a lu le livre scellé? Oui, les autres vont encore le lire. C'est très important. Bon, voici la description. Je voudrais encore lire les versets 4 et 5. Le verset 4. Lorsque j'ai posé la question à l'ange qui me parlait, que signifie-t-il, mon Seigneur? Verset 5. L'ange m'a répondu. Ce sont les quatre vents du ciel qui s'en vont après s'être présentés devant le Seigneur de toute la terre. Nous devrons aborder très brièvement cette partie prophétique afin de comprendre pourquoi ces anges du jugement précisément sont liés près du fleuve Euphrate jusqu'au jour et à l'heure, jusqu'au mois et à l'année. À ce sujet, je vais lire un passage de l'Apocalypse, chapitre 9, Apocalypse, chapitre 9, du verset 13 à 15. Apocalypse, chapitre 9, verset 13 à 15. Le verset 13. Le sixième ange sonna de la trompette. J'entendis alors une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui se trouve devant Dieu. Verset 14. Qui ordonna au sixième ange, celui qui tenait la trompette, détache les quatre anges qui sont liés près du grand fleuve l'Euphrate. Verset 15. Alors, les quatre anges qui étaient prêts à l'heure, au jour, au mois et à l'année fixée furent déliés pour tuer le tiers des hommes. On nous dit ici où ces quatre anges du jugement sont enchaînés, liés. Vous savez, bien que lorsqu'une personne est enchaînée, elle peut aboyer, mais elle ne peut pas encore faire ce qu'elle veut. Pour l'instant, on ne fait qu'évoquer ce qui se passera alors. Pour l'instant, ces quatre anges du jugement sont encore enchaînés, mais comme je viens de le dire, cela laisse entrevoir d'où viendra le coup contre Israël. La dernière chose contre Israël, nous l'avons vu dans Zacharie 4, ces quatre chevaux dont les couleurs sont reproduites à l'identique dans les quatre premiers sceaux, sont, et il y a deux choses. Premièrement, dirigé contre Israël depuis l'ancienne Babylone, et l'avez-vous entendu, Hussein veut justement reconstruire Babylone. C'est en effet une très belle chose. Il n'a plus besoin de la reconstruire, car elle a été déjà déplacée depuis longtemps, depuis l'Euphrate, bien plus loin. Vous savez, dans le Nouveau Testament, la grande ville qui règne sur les rois de la terre est désignée comme la grande Babylone. Encore et encore. Il n'a donc rien à reconstruire. Dans l'Apocalypse 17, cela est écrit à plusieurs reprises. Je ne lis ici que le verset, oui, la dernière partie du verset 5 d'Apocalypse 17, la dernière partie du verset 5. Et sur son front était écrit un nom, un mystère, la grande Babylone, la mère des prostituées et des abominations de la terre. On peut donc le lire à plusieurs reprises, notamment au chapitre 18, verset 2. Apocalypse 18, verset 2. Il s'écria d'une voix puissante, « elle est tombée, la grande Babylone, elle est devenue la demeure des démons, le repère de tous les esprits impurs et le refuge de tous les oiseaux impurs et abominables. » On trouve donc à plusieurs reprises dans l'Apocalypse la description de cette Babylone de Rome, au chapitre 18, au verset 10. Il est écrit Apocalypse 18, verset 10. De loin, ils se tiendront saisis de crainte devant son tourment et s'écrieront, malheur, malheur à toi, grande ville de Babylone, ville puissante. En une seule heure, le jugement est tombé sur toi. Et puis au verset 21, nous lisons, au verset 21, alors un ange puissant souleva une pierre aussi grande qu'une mule et la jeta dans la mer en disant, c'est ainsi que la grande ville de Babylone sera précipitée avec violence et ne sera plus retrouvée. Voilà pour l'instant le parallèle entre l'ancienne Babylone au bord de l'Euphrate et cette Babylone, là, la grande ville qui n'a fait que répandre la confusion sur toute la terre. Babel signifie porte de Dieu. Babylone signifie confusion. Et ainsi nous voyons que là où la porte de Dieu aurait pu et dû se trouver, la confusion s'est installée et s'est répandue sur toute la terre. Dans le chapitre 16 de l'Apocalypse, il nous est ensuite décrit précisément quand cette Babylone sur l'Euphrate, probablement ou certainement unie à la Babylone de Rome, se dressera à nouveau contre Israël. Apocalypse 16, verset 12. Sur ce, le sixième, donc le verset 12, Apocalypse 16, verset 12. Sur ce, le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate, et ses eaux se tarirent, afin que le chemin fût ouvert au roi venant de l'Orient. Verset 13, je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. Verset 14, ce sont en effet des esprits diaboliques qui accomplissent des prodiges. Ceux-ci se rendent auprès des rois de toute la terre pour les rassembler en vue de la bataille du grand jour de Dieu le Tout-Puissant. Verset 15, voici je viens comme un voleur. Béni celui qui veille et qui garde ses vêtements prêts afin de ne pas avoir à marcher nu et que l'on ne voit pas sa honte. Verset 16. Et ils les rassemblèrent dans la région qui en hébreu s'appelle Armageddon. En hébreu, ceux d'entre nous qui se sont rendus plusieurs fois en Israël savent très bien où cela se trouve, la vallée de Josaphat, la plaine de Jezreel, juste de l'autre côté du mont Carmel, en direction de la Syrie. Et c'est ainsi que, selon la description de l'Ancien et du Nouveau Testament, cela se produira, se passera, là-bas en Mésopotamie, dans la région de l'Euphrate et du Tigre, là où l'humanité a vu le jour, là où se trouvait le paradis, là où Abraham a vécu, là où les premiers êtres humains ont foulé le sol de la terre, là où la civilisation a commencé, là où se trouvait Nimrod, là où se trouvait Ninive, là où tout a commencé. C'est là où tout a commencé que tout prendra fin. Et ces quatre anges du jugement qui sont actuellement liés par le jour et l'heure, par le mois et l'année, seront alors libérés au moment où aura effectivement lieu le dernier conflit qui sera bien sûr dirigé contre Israël. Et alors Dieu interviendra depuis les cieux dans la bataille et mettra fin à l'humanité qui s'est rebellée contre lui, se glorifiant ainsi aux yeux de toutes les nations. C'est ce qui est écrit dans le prophète Ézéchiel, plus précisément au chapitre 38, au chapitre 38, versets 22 et 23. Ézéchiel 38, versets 22 et 23. Verset 22. Je ferai retomber sur lui mon châtiment, peste, effusion de sang, pluie torrentielle et grêlon. Je ferai pleuvoir sur lui, sur ses armées et sur les nombreuses nations qui l'accompagnent du feu et du soufre. Verset 23, ainsi, je manifesterai ma grandeur et ma sainteté et je me ferai connaître aux yeux de nombreux peuples afin qu'ils reconnaissent que je suis le Seigneur. Nous pouvons donc être tout à fait rassurés. Tout se déroule comme prévu, tel que Dieu l'a fait consigner dans sa parole et tel qu'il l'a déjà ordonné et déterminé avant la fondation du monde. Nous chantons d'ailleurs dans un cantique, tout doit se passer comme il le veut. Tais-toi, cœur, tais-toi. Nous n'avons pas à nous inquiéter pour Israël. Dieu combattra pour son peuple et veillera sur lui. Il faut toutefois réfléchir très sérieusement au fait que ces puissances s'agitent. Et je l'ai probablement déjà dit ici la dernière fois. Nous pouvons tous déjà prédire ce qui va arriver. La haine de l'ensemble du monde arabe envers Israël va s'intensifier à tel point qu'on mettra tout en œuvre pour porter le dernier grand coup. Mais alors, Dieu frappera. Alors, Dieu mettra fin à tout cela. Et nous le savons déjà, maintenant, il ne frappera pas de fausses cibles. Il ne manquera jamais sa cible. Non, avec Dieu, ce ne seront que des coups au but. En réalité, nous ne nous réjouissons pas de voir des gens souffrir. Alors que nous y pensons maintenant, alors que nous sommes rassemblés ici en toute tranquillité et paix devant la face de Dieu, il y a là-bas des pères et des fils, des hommes au front qui ne veulent pourtant pas se battre, qui sont envoyés là-bas et risquent leur vie pour un combat qui est perdu d'avance. Nous pensons à tout cela et je dois dire en toute honnêteté, jamais le passage de Romains 8 ne m'a paru aussi important qu'au cours de ces dernières semaines que nous traversons. Il y est dit, toute la création attend et aspire à ce que les fils de Dieu soient révélés et libérés de la nature éphémère à laquelle elle a été soumise. Et ce ne sont pas seulement nous qui avons reçu l'Esprit en tant que premier don, mais toute la création elle-même aspire à être délivrée de cette nature passagère à laquelle elle a été soumise de force à cause de l'homme qui a chuté, afin qu'elle aussi connaisse la rédemption, que tout soit renouvelé et préparé pour le royaume millénaire, pour le millénium. Si je peux maintenant lire encore un passage concernant les ravages ou la détresse qui ne surviendront qu'après l'enlèvement tiré d'Apocalypse 7. Au sujet de ces quatre vents ou de ces quatre anges, deux termes sont utilisés ici, juste pour conclure ainsi. Apocalypse, chapitre 7, du verset 1. Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre extrémité de la terre. Il retenait les quatre vents de la terre afin qu'aucun vent ne souffle sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Verset 2. Je vis ensuite un autre ange monté de l'Orient. Il avait le sceau du Dieu vivant. Il s'adressa d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de causer des ravages sur la terre et sur la mer en leur disant, verset 3, « Ne causez aucun malheur sur la terre, ni sur la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué d'un sceau sur le front les serviteurs de notre Dieu. » Il ressort très clairement de ce passage que la destruction et le malheur ne peuvent survenir qu'après le ministère des deux témoins, après l'appel et le scellement des 144 000. À présent, ces forces se manifestent, mais elles sont encore liées. Elles seront alors déchaînées, et ce qui se passera alors, nous l'avons déjà lu et pouvons le retrouver dans d'autres passages bibliques. En lisant le verset 2 concernant l'ange de l'Orient, je repense à un séjour en Israël, à Eilat, lorsqu'un homme venu du Japon, de Tokyo, s'y est présenté à prêcher avec ferveur et à rassembler quelques personnes autour de lui. Je me suis entretenu avec lui. Par la suite, je lui ai demandé quelle était sa mission. Il m'a répondu, je suis l'ange d'Apocalypse 7, verset 2. Et je lui ai alors demandé, mais oui, et comment justifies-tu cela? Eh bien, il me dit, mais je viens du lever du soleil. Je viens du lever du soleil. C'est écrit un ange du lever du soleil. Et je lui ai dit, mais tu n'es pas un ange. Tu n'es pas un ange. Enfin, quoi qu'il en soit, vous savez bien qu'avec ce genre de personnes, la conversation ne dure pas longtemps. On y vient très vite au but. Combien pouvons-nous être reconnaissants que Dieu nous ait donné une compréhension claire, mais aussi un esprit lucide, qu'il nous ait préservé jusqu'à présent et qu'il continuera à nous préserver jusqu'à la fin. Nous sommes également reconnaissants envers Dieu de ne pas défendre une opinion, de n'avoir aucune doctrine, mais de pouvoir enseigner librement et ouvertement la parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Il y a cependant une chose qui me tient particulièrement à cœur, à savoir, quand on pense que le temps qui nous reste est compté. Où en sommes-nous? Qu'en est-il de notre préparation lorsque nous lisons que les 144 000 sont marqués du sceau de Dieu? La question qui se pose alors est la suivante. Avons-nous déjà fait l'expérience de Dieu de telle sorte que nous sommes, que non seulement nous sommes devenus croyants, mais que nous avons également reçu le sceau de Dieu comme confirmation que Dieu nous a acceptés. Il existe plusieurs passages bibliques dans le Nouveau Testament qui en parlent effectivement. Prenez notre Seigneur Jésus-Christ, né Fils de Dieu. Les cieux se sont ouverts au-dessus de lui. Et l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. J'ai relu à ce sujet la lettre de Pierre. Nous connaissons tous les évangiles. Nous savons ce qui y est écrit. Dans la lettre de Pierre, nous lisons de Pierre, chapitre 1, à partir du verset 16. 2 Pierre, chapitre 1, verset 16. Car ce ne sont pas des fables habilement conçues que nous avons suivies lorsque nous vous avons annoncé la puissance et le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous avons été témoins oculaires de sa gloire merveilleuse. Verset 17. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire lorsque de la gloire sublime cette voix lui a été adressée. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma joie, tout mon bon plaisir. Or, Pierre témoigne de ce qui suit, verset 18. Nous avons en effet entendu cette voix retentir du ciel lorsque nous étions avec lui sur la montagne sainte. Chaque fois que nous lisons dans le Nouveau Testament qu'il est question de notre rédemption corporelle, de la rédemption de notre corps, nous parlons en réalité du sceau. Nous lisons concernant le sceau du Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 1, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, le message du salut ou l'évangile concernant votre salut, et après être venu à la foi, vous avez été ensuite scellé par le Saint-Esprit promis, verset 14, qui est le gage ou la garantie de notre héritage pour la rédemption de son Église à la louange de sa gloire. Notre âme est rachetée. Notre culpabilité est pardonnée. Nos fautes, nous sommes devenus fils et filles de Dieu. Mais il y a plus encore. Il s'agit de prendre part à la première résurrection, de participer à la transformation et à l'enlèvement, et ainsi au festin des noces. Et pour cela, il est nécessaire que nous soyons non seulement devenus fils de Dieu, mais que nous soyons en tant que tels scellés par le Saint-Esprit en vue du jour de la rédemption de notre corps. Il ne s'agit pas en effet de l'âme. Celle-ci est déjà rachetée. Et ici, il s'agit bel et bien du corps qui doit être transformé et le sera lors du retour du Seigneur. On trouve un passage similaire dans Éphésiens au chapitre 4, Éphésiens chapitre 4, verset 30. Éphésiens 4, verset 30. Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Il y a donc plusieurs choses. Nous allons lire des passages bibliques qui parlent de l'onction et du sceau. 2 Corinthiens, chapitre 1, 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 20 à 22. Car c'est en lui que réside le oui de toutes les promesses de Dieu. C'est aussi par lui que s'est accompli l'amène à la gloire de Dieu par notre intermédiaire. Verset 21. Mais celui qui nous a solidement fondés, vous et nous, sur le Christ, et qui nous a oints, c'est Dieu. Verset 22. Lui qui nous a aussi apposé son sceau et a mis dans nos cœurs l'Esprit comme gage. Trois notions sont donc utilisées ici. Premièrement, celui qui nous a solidement fondés sur le Christ. Et je crois que nous pouvons l'affirmer de tout cœur. Nous ne sommes plus ballottés au gré des courants doctrinaux. Je crois que nous pouvons affirmer en toute vérité que Dieu nous a ainsi solidement fondés sur le Christ par la parole, de telle sorte que rien ni personne ne peut nous ébranler. Pouvez-vous dire amen à cela? Oui, c'est un fondement solide comme le roc dans la parole, par la révélation de l'Esprit. Et comme je l'ai dit, ce fondement est solide. Rien ne bouge, ni ne vacille plus. Mais cela continue. Et nous a oint. C'est là encore une autre chose. L'une concerne l'assise solide, l'autre l'onction. Et cela ne suffit pas encore. Cela continue ainsi. Et qui nous a aussi apposé son sceau et a mis l'Esprit dans nos cœurs en gage. Voyez, notre Seigneur, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, est certes né en tant que Fils de Dieu, mais il était dans un corps de chair. Il est encore écrit aujourd'hui, « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Il a été engendré par le Saint-Esprit. Il était Fils de Dieu. Et pourtant, le ciel s'est ouvert et l'Esprit de Dieu est descendu sur ce corps qui était lui aussi soumis au processus de croissance. Vous savez, il avait 12 ans, il avait 30 lorsqu'il a commencé son ministère. Il était dans ce corps terrestre. Et on disait, tu n'as même pas 50 ans. Donc, il paraissait donc plus âgé qu'il ne l'était, car il était l'homme de douleur et de souffrance. Il était donc ici, dans un corps terrestre. Il a mangé et bu. Il a communiqué par des gestes comme un être humain. Il était comme un homme. Il a souffert. Il a pris les douleurs sur lui. Il les a réellement ressenties dans son corps. Donc, ce corps a donc dû être, pour ainsi dire, pris en charge par Dieu. Dieu a simplement dû revendiquer le droit que ce corps ne connaisse pas la décomposition, mais qu'il en soit comme il est écrit, « Je ne laisserai pas mon sein voir la corruption, ni son âme demeurer dans le séjour des morts. » Il s'agit là de deux choses, l'âme et ensuite le corps. Les deux se sont accomplis. Il est ressuscité le troisième jour. Il est descendu, tandis que son corps reposait dans le tombeau. Il est descendu dans les profondeurs de la terre. Puis il est ressuscité le troisième jour. Et le corps avec lequel il est ressuscité est précisément ce corps de résurrection que nous aurons lorsque le Seigneur reviendra et que les morts en Christ ressusciteront les premiers. Puis que nous qui seront encore en vie seront transformés et enlevés pour être alors avec le Seigneur pour toujours. Et pour cette transformation de notre corps, il est nécessaire que la puissance transformatrice de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, vienne déjà habiter dans ce corps terrestre afin de pouvoir ensuite le transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Nous avons en effet déjà lu plusieurs fois ce passage de l'Épître aux Romains. Et il est tout simplement très important. Mais bien aimé, cela ne sert à rien de parler de l'enlèvement et du retour du Seigneur, de la de la brièveté du temps qui nous reste, sans nous faire connaître les uns aux autres, en toute vérité, quelles sont les exigences de Dieu et tout ce qui doit arriver pour que nous puissions nous aussi être présents lorsque le Seigneur viendra et pour que ces corps mortels reçoivent justement l'immortalité. Nous trouvons la parole à ce sujet dans l'épître aux Romains au chapitre 5, Romains chapitre 5, puis également au chapitre 8. Tout d'abord dans Romains chapitre 5, verset 8. Romains chapitre 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Au verset 9. Ainsi maintenant, que nous sommes justifiés par son sang, nous serons d'autant plus assurés d'être sauvés par lui de la colère. Il s'agit du salut, avant que la colère ne s'abatte. Passons maintenant au chapitre 8 de l'épître aux Romains. Romains chapitre 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc, né de nouveau par l'Esprit, renouvelé par l'Esprit, enseigné par l'Esprit, conduit dans toute la vérité par l'Esprit, oint par l'Esprit. Mais il est maintenant question de la puissance. Il ne s'agit pas seulement de l'établissement, d'être solidement fondé en Christ, ni seulement d'être loin, donc seulement de l'onction, mais de la puissance du Saint-Esprit, du sceau à poser sur les prémices. Cela aussi, nous pouvons le lire clairement ici dans le chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Dans le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, poursuivons la lecture à partir du verset 19. Car la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Verset 20. Car c'est à la vanité, oui, à la nature périssable, que toute la création a été soumise, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, toutefois, dans l'espérance. Verset 21. Qu'elle aussi, la création, sera libérée de l'esclavage, de la nature périssable, pour entrer dans la liberté dont jouiront les enfants de Dieu dans leur état de glorification. Qu'est-ce que la glorification? Lorsque ce corps mortel revêtira l'immortalité et que le périssable revêtira l'impérissable, lorsque la parole s'accomplira, la mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? Grâce soit rendue à Dieu. Ainsi est-il écrit, plus loin dans 1 Corinthiens 15, qui nous a donné la victoire par Jésus-Christ notre Seigneur. Poursuivons notre lecture à partir du verset 22 maintenant. Nous savons que cette... Romains 8, verset 22. Nous savons en effet que jusqu'à présent, toute la création gémit ensemble et attend dans la souffrance sa renaissance. Verset 23, mais ce n'est pas seulement elle. Nous aussi qui possédons déjà l'Esprit comme premier don, nous gémissons en notre fort intérieur en attendant la révélation de notre filiation, c'est-à-dire la rédemption de notre corps. Et ici, Paul poursuit très clairement au verset 24, car nous avons certes été sauvés, mais seulement dans l'espérance. Or, une espérance que l'on voit déjà n'est plus une espérance. En effet, pourquoi espérer encore quelque chose que l'on voit déjà? Verset 25. Si au contraire, nous espérons ce que nous ne voyons pas encore, nous l'attendons avec patience. On pourrait continuer à lire. Hier soir, à Krefeld, j'ai écouté le frère Schmitt lire Matthieu 25. Et je dois avouer franchement qu'une profonde mélancolie m'a envahi. On peut vraiment lire aujourd'hui, moi, toi et nous tous, on peut lire la parabole des 10 vierges. Toutes avaient des lampes, toutes les lampes brillaient, toutes se mirent en route pour aller à la rencontre de l'époux. Mais ensuite, la situation est devenue grave et critique. Soudain, ce nombre total s'est divisé par deux, et voilà que les unes avaient emporté des cruches, tandis que les autres n'en avaient pas. Et cela s'applique à la fin des temps, car c'est la parabole directe liée au retour de l'époux. Et on y trouve la description suivante, celles qui étaient prêtes entrèrent au banquet des noces et la porte fut fermée. Je ne peux pas faire autrement. Je dois proclamer toute la vérité et ce de telle sorte que nous soyons prêts ensemble lorsque le Seigneur viendra. Non seulement avoir l'illumination, la lumière, non seulement avoir des lampes allumées, non seulement avoir la connaissance et la révélation, mais posséder réellement la plénitude de l'Esprit qui nous en, qui se déverse sur nous, la puissance donc qui nous envahit, qui coule, la puissance directe de Dieu qui peut nous transformer et même alors rendre vivants nos corps mortels. Je souhaite vraiment vivre cela et j'espère que nous le souhaitons tous, que nous soyons baptisés dans l'Esprit, que nous soyons oints de l'Esprit Saint, que nous soyons scellés par l'Esprit Saint, que nous soyons ainsi équipés, revêtus de la puissance de l'Esprit Saint, de sorte qu'il ne nous manque rien, ni pendant le temps où nous serons encore nécessaires au service de Dieu ici, en tant qu'Église, ni à l'heure où le Seigneur reviendra pour ramener les siens chez eux. Il ne faut pas qu'il s'avère ce jour-là que nous ayons manqué de quelque chose. Et malheur à moi, si quelqu'un pouvait alors encore dire, « Oui, mais le frère Frank ne nous l'a pas prêché. » Et alors, cela ne doit pas arriver. Je dois pouvoir me présenter devant Dieu en ce jour-là. Et je ne pourrais me présenter devant lui et subsister devant lui que si je prêche le plein évangile dans son intégralité, tel que Paul et les apôtres l'ont prêché. Et nous pourrons tous nous présenter devant Dieu et subsister devant lui que si nous vivons avec lui les mêmes expériences que celles que nos frères et sœurs du christianisme primitif ont vécues avec Dieu. Et si nous ne trouvons pas le repos, tant que nous n'aurons pas trouvé en Dieu le repos pour notre âme, l'avons-nous compris? Et si cela nous pousse à prier avec ferveur, rendons grâce à Dieu pour cela. Peut-être faut-il d'abord que s'élève ce cri de détresse pour que s'accomplisse. Invoque-moi au sein de la détresse et je te délivrerai et tu me loueras. Psaume 50, verset 15. Il vaut mieux, n'est-ce pas, que nous reconnaissions dès maintenant nos manquements, ce qui nous manque, et que nous remplissions nos lampes et nos cruches d'huile plutôt que de devoir soudainement constater au moment du retour du Seigneur et dire « Donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. » Et alors viendra la réponse « Allez chez les marchands. » Oui, il y a beaucoup de marchés de nos jours. Nous ne voulons pas aller chez les marchands. Nous voulons aller vers le Seigneur. Jean a prêché au sujet de notre Seigneur. Il a dit, je vous baptise d'eau et en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus grand que moi. Il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Il a dit, il tient la pelle à la main et il va balayer ou nettoyer son air de battage à fond. Nous devons donc proclamer le plein évangile dans son intégralité. Et pas seulement cela, nous devons aussi le vivre, l'expérimenter personnellement. Je ne m'en contenterai pas tant que cela, et il faut qu'une percée se produise très bientôt. Cela doit arriver. Et si cela doit nous coûter notre indifférence, quelle soit encore, mieux vaut vouloir en avoir davantage quand on en a déjà assez que de ne plus vouloir rien, que de ne plus vouloir plus quand on n'en a pas assez. Oui, que de ne plus rien vouloir quand on n'en a pas assez. Il vaut tout de même mieux avoir trop que pas assez lorsque le Seigneur reviendra chercher les siens. Je voudrais juste lire très brièvement ce passage de la première épître de Pierre afin que nous puissions alors atteindre cet état en tant qu'Église et être véritablement unis devant le Seigneur comme il est écrit dans 1 Pierre chapitre 3 verset 8. 1 Pierre chapitre 3 verset 8. Enfin, soyez tous unis, pleins de compassion et d'amour fraternel, miséricordieux et humble. 1 Pierre 3, verset 8, verset 9, ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter de la bénédiction. Verset 10, car celui qui veut trouver la joie dans sa vie et voir des jours heureux, qu'il retienne sa langue du mal et ses lèvres de toute parole trompeuse. Verset 11. Qu'il se détourne du mal et fasse le bien. Qu'il recherche la paix et la poursuive. Verset 12. Car les yeux du Seigneur sont tournés vers les justes et ses oreilles vers leurs supplications. Mais la face du Seigneur est tournée contre les malfaiteurs. Il s'agit ici principalement de cela. Quand en tant qu'enfants de Dieu, en tant que grande famille, nous grandissions ensemble d'une manière ou d'une autre selon la parole, selon cette parole, ce qui va ensemble grandit ensemble. Un seul esprit, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, né de la même parole, recevant la vie de Dieu par le même esprit. Il n'y a qu'un seul genre de fils et de filles de Dieu. Et comme je l'ai déjà dit, en tant que fils et filles de Dieu, nous devons faire nos preuves et être intronisés dans notre rang. Il y a un passage dans l'Épître aux Hébreux, je ne sais pas si je peux le retrouver d'emblée, mais il y est écrit que tant que le fils est mineur, c'est plutôt dans Jacques, dans Galates chapitre 4. Tant que le fils est mineur, il n'y a aucune différence entre lui et le serviteur. Mais lorsqu'il est majeur, qu'il a fait ses preuves et qu'il est alors établi dans la filiation en tant que fils éprouvé de Dieu, il devient alors l'héritier du trône et peut commencer à régner. Mes chers amis, Dieu veut faire de nous une armée de vainqueurs, une armée des prémices. Il veut quelque chose de particulier. Il le dit déjà dans le prophète Malachi. Vous serez pour moi, en ce jour-là, un peuple à part. Un trésor particulier. Dieu a une troupe des prémices comme sa propriété particulière. Et c'est à chaque époque et dans chaque âge, la troupe des vainqueurs, véritablement appelée à sortir par l'Esprit. Et je crois que nous en faisons partie. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que Dieu nous a accordé la grâce de ne pas nous contenter de parler d'un messager qu'il a envoyé, ni d'un message, mais parce que ce qui est écrit s'est accompli en nous. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Combien de personnes se réclament d'un messager de Dieu tout en parlant à côté de Dieu au lieu d'écouter ce que l'Esprit a révélé et de se laisser conduire par l'Esprit de Dieu dans toute la vérité? Il transforme le message divin en un message qui leur est propre et l'enseignement de Dieu en leur propre doctrine. C'est ainsi qu'une nouvelle confusion s'installe et qu'ils n'ont véritablement pas compris ni replacé correctement l'envoi d'un messager divin. C'est pourquoi je pense pouvoir dire en toute vérité devant Dieu, non seulement nous avons reconnu que Dieu, au cours des sept âges de l'Église, avait des messagers et ces messages conformément aux sept épîtres ou sept lettres, mais nous avons également reconnu que l'Esprit a révélé ce que l'épouse doit entendre en ces jours, ce qui doit lui être rendu accessible et ce qui doit lui être révélé. Et je le souligne encore une fois, Dieu nous a fait la grâce de ne rien ajouter du tout, rien de ne rien interpréter, rien ajouter à côté, mais ou retrancher, simplement de croire et d'accueillir, d'écouter ce que l'Esprit dit aux églises. Et ainsi, je crois du fond du cœur et par conviction que nous avons été élus par Dieu pour faire partie de ce troupeau des prémices de notre temps qui a toujours prêté attention à ce que l'Esprit avait à dire aux églises. Et c'est pourquoi il n'y a pas non plus de culte autour d'un prophète quelconque, ni de longs discours autour d'un homme de Dieu, mais la proclamation de tout le dessein de Dieu, l'initiation à ce que Dieu a révélé. Nous sommes reconnaissants qu'il ait envoyé son serviteur et prophète en notre temps, tout comme il avait autrefois un Paul et à bien d'autres époques ses messagers. Je le répète sans cesse, par conviction, nous n'aurions pas su ce que nous savons aujourd'hui si Dieu n'avait pas envoyé son serviteur et prophète, notre frère bien-aimé, frère Branham. C'était un homme envoyé de Dieu. C'était un prophète envoyé par Dieu. Le Seigneur a en effet envoyé ses serviteurs et ses prophètes, tant dans le passé que dans le présent, car il est écrit ainsi, il ne fait rien sans avoir révélé son mystère à ses serviteurs, les prophètes. Et tout comme Dieu a ramené son peuple d'Israël sur la terre de la promesse pour y procéder ensuite à l'appel à sortir et au scellement, ce n'est pas à New York que le scellement aura lieu, ni à Moscou. Les Juifs du monde entier doivent retourner dans la terre promise. Les deux prophètes ne prendront pas l'avion pour New York, ni pour aucun autre endroit. Ils resteront là-bas. Et c'est pourquoi ceux qui sont comblés de la grâce de Dieu doivent se trouver là où est proclamé le message qu'ils doivent entendre. Il en va de même pour l'Église épouse issue des nations. Il faut simplement être là où les promesses que Dieu a faites pour cette époque sont proclamées et placées sur le chandelier. On ne peut pas rester dans les dénominations qui n'ont absolument aucune idée de ce que Dieu fait actuellement et qui, lorsqu'ils en entendent parler, rejettent cela. Il faut être là où Dieu parle, là où Dieu agit, là où il se révèle. Il faut être là où, selon sa parole, Dieu accomplit l'histoire du salut avec son peuple. Et c'est là qu'il a révélé sa parole selon sa volonté, et c'est là que les personnes auxquelles il a accordé sa grâce recevront et écouteront de tout leur cœur ce que l'Esprit dit aux églises. Je crois que nous avons résumé l'ensemble de ces points pour ce week-end. Dieu suit son chemin avec le peuple d'Israël. Nous voyons qu'il y a des combats, nous nous non plus, nous ne serons pas épargnés par le combat, mais voici ce que nous savons déjà aujourd'hui. La victoire de Golgotha est bel et bien notre victoire. Que nous apparaîtrons devant le trône de Dieu en tant que troupe des vainqueurs. Et cela, sans tache ni ride, lavé dans le sang de l'agneau, purifié dans le bain d'eau de la parole, scellé et rempli du Saint-Esprit, afin qu'en ce jour-là, lorsque notre Seigneur reviendra, nous soyons enlevés dans la gloire avec lui. Je crois que cela arrivera. Et j'ai souvent dit, si Dieu ne mène pas à bien son œuvre avec nous, qui prenons sur nous tout l'opprobre de son nom et de sa parole, qui le suivons dans l'obéissance au mieux de nos connaissances et de notre compréhension, et qui croyons de notre compréhension, et qui croyons en toutes les promesses qu'il a faites, si Dieu ne mène pas à bien son œuvre avec nous, qui nous sommes entièrement rangés de son côté. Alors avec qui l'amènera-t-il à bien? Avec qui achèvera-t-il son œuvre? Avec ceux qui ne savent même pas de quoi il s'agit aujourd'hui, qui ne connaissent pas du tout le message de Dieu, ceux qui n'ont encore jamais été en contact avec l'œuvre du salut qui se déroule de nos jours? Non. Là où Dieu révèle sa parole de promesse, c'est là qu'il accomplit l'histoire du salut. Là, il y a des gens qui croient en lui et lui font confiance. Pensez à l'époque de Moïse. Et d'ailleurs, en tout temps, là où Dieu a fait des promesses, c'est là qu'il les a aussi accomplis en ceux qui ont cru en sa parole et l'ont accueilli. Dans cette génération, à la fin de cet âge, c'est par grâce que nous en faisons partie. Nous ne sommes pas mieux que les autres, ou peut-être même pire, oui, pas seulement peut-être, mais très certainement. Ce n'est pas ce que nous sommes qui compte, mais ce que Dieu a fait de nous. Et Paul l'a clairement exprimé. Ce qui n'est rien aux yeux du monde, Dieu l'a choisi pour en faire quelque chose à sa gloire. Réjouissons-nous donc dans le Seigneur, notre Dieu. D'une part, nous constatons et ressentons que nous n'avons pas encore tout ce dont nous avons besoin. D'autre part, nous savons que Dieu nous donnera tout ce dont nous avons besoin avant le retour de Jésus-Christ. Mais s'il vous plaît, mettons tout en œuvre pour que cela puisse arriver très bientôt, car le temps est vraiment grave et il est court. Et le retour du Seigneur est tout proche. Que le Dieu fidèle nous bénisse, nous, son peuple de l'Alliance du Nouveau Testament, ainsi que le peuple d'Israël, qu'il bénisse là où il faut bénir, là où une bénédiction durable de Dieu peut se manifester, à savoir là où les hommes sont rassemblés en son saint nom pour écouter sa sainte parole et sous l'onction et la révélation du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous n'avons pas été enseignés par des hommes, mais par Dieu qui nous enseigne par sa parole et par la révélation du Saint-Esprit et qui nous conduit dans toute la vérité. Lui qui a commencé, il l'achèvera jusqu'au jour glorieux de son retour. Que son saint nom soit loué et glorifié. Amen. Levons-nous et rendons grâce ensemble au Seigneur. Seigneur fidèle, nous te rendons grâce ensemble de nous permettre d'être ainsi rassemblés devant ta face. Et comme l'a dit ton serviteur et prophète Jean, l'époux entend le cri de joie de l'épouse. Seigneur bien-aimé, tu es notre époux. Tu as établi une relation d'amour avec nous. Nous nous reposons sur ta poitrine pour entendre les paroles douces, les promesses qu'un époux fait à son épouse. Il lui fait des promesses. Il lui dit tout ce qu'il va faire. Seigneur bien-aimé, tu ne nous appelles plus serviteurs ni étrangers, mais tes amis. Et tu nous fais connaître et comprendre ce que tu fais en ce moment. Ô époux de notre âme, notre Rédempteur, agneau de Dieu, tu as donné ta vie, tu as versé ton sang, tu as crié, tout est accompli. Ton côté a été ouvert afin que l'épouse puisse être rachetée. Chair de ta chair, eau de tes eaux, issue de toi, sortie de toi, et qui te sera présentée, et qui en ce jour-là sera semblable à toi. Seigneur bien-aimé, nous te remercions de ce que nous n'avons pas seulement parcouru un chemin, mais que nous pouvons te suivre jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. Seigneur bien-aimé, nous te remercions pour l'envoi de ton messager. Nous te remercions pour le message divin de la parole, pour toute la révélation des mystères. Mon Dieu et mon Seigneur, n'as-tu pas dit autrefois à tes disciples, « Il vous est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. » Nos cœurs ne brûlaient-ils pas lorsque tu nous parlais, Seigneur bien-aimé, la fin de toutes choses est proche. Ton épouse suit ta voix. Nous t'en rendons grâce et ta voix est ta sainte parole. Seigneur fidèle, nous te prions de veiller sur Israël. Tu dis en effet que tu veilles sur la ville qui porte ton nom. Tu as dit le lieu que je choisirai, c'est là que je mettrai mon nom. Là, vous m'offrirez des sacrifices. Là, je me révélerai à vous et je vous parlerai. Seigneur, je te remercie. Nous savons où tu as révélé ton nom. En Jésus-Christ, notre Seigneur, il est la révélation de Dieu et nous sommes en lui. Ah, nous te remercions, Seigneur bien-aimé, toi en nous et nous en toi, que tu marches avec nous tous et tes voix avec nous tous. Nous te prions de continuer à agir en nous. Puisse toutes ces expériences devenir bientôt réalité afin que nous soyons des témoins vivants de ta parole. Salut, guérison, délivrance, nouvelle naissance, renouveau, baptême du Saint-Esprit, revêtement de la puissance d'en haut, onction d'en haut. Ô Seigneur bien-aimé, pas pour le jour de la rédemption de notre corps. Seigneur, nous croyons que nous pouvons faire partie de la multitude à qui aucune expérience ne manquera, mais où tout s'accomplira. Nous te rendons grâce, car nous croyons en chaque promesse et nous en ferons l'expérience. À toi, Dieu Tout-Puissant, nous rendons grâce d'avoir oint nos yeux et ouvert nos cœurs. Tu t'es révélé à nous, ainsi que ton dessein de salut. Nous t'en rendons grâce du fond du cœur. Bénis ton peuple de la Nouvelle Alliance, bénis ton peuple d'Israël et sois avec nous tous. Seigneur, lève-toi et que s'accomplisse l'annonce selon laquelle des temps difficiles attendent le diable. Il doit rendre tout ce qui appartient à Dieu. Il doit les laisser libres. Seigneur, tu appelles ton peuple. Nous t'en remercions. Il a perdu son droit. Il est vaincu. Il doit céder la place. Alléluia. Seigneur, nous te louons et nous te rendons grâce. Nous sommes à tes côtés, aux côtés du vainqueur de Golgotha. et nous te rendons gloire à toi, seul, au nom de Jésus. Amen.